Chapitre 12. Abraham. L'appel de Dieu. Le premier verset du chapitre 12 et les derniers du chapitre précédent, joints aux paroles d'Étienne en acte 7, nous montrent comment Dieu a appelé le patriarche et comment celui-ci a obéi à l'appel de Dieu. L'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Telle est la communication que Dieu avait faite à Abraham, communication parfaitement définie et par laquelle Dieu voulait agir sur le cœur et la conscience de celui à qui elle était adressée. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan. Et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Acte 7, versets 2 à 4. Le résultat de cette communication peut nous paraître étonnant. Et Térakh prit Abraham son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Et Térakh mourut à Charan. Genèse 11, verset 31. De l'ensemble de ces passages, nous apprenons que les liens naturels ont empêché Abraham de répondre entièrement à l'appel de Dieu. Bien qu'appelé à se rendre en Canaan, il s'arrêta à Charan jusqu'à ce que la mort rompe le lien qui le retenait auprès de son père. Ensuite seulement, il se rendit au lieu où le Dieu de gloire l'avait appelé. Tout ceci est significatif. Les influences naturelles sont toujours contraires à la pleine réalisation et à la puissance pratique de l'appel de Dieu. Nous sommes malheureusement enclins à nous contenter d'une portion moindre que celle que cet appel place devant nous. Il faut une foi simple et une vraie obéissance pour s'élever à la hauteur des pensées de Dieu et s'approprier les choses qu'il nous révèle. La prière de Paul en Éphésiens 1, versets 15 à 22, nous apprend qu'il savait les difficultés contre lesquelles les enfants de Dieu auraient à lutter en cherchant à comprendre l'espérance de son appel et les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Il est évident que nous ne pouvons marcher d'une manière digne de cet appel, Éphésiens 4, verset 1, si nous ne le comprenons pas. Il faut que nous sachions où nous sommes appelés pour pouvoir nous y rendre. Si Abraham avait été pleinement sous la puissance de la parole de Dieu, il aurait réalisé que c'était en Canaan que Dieu l'appelait, et il n'aurait pas pu s'arrêter à Charan. Il en est de même pour nous. Si, par le Saint-Esprit, nous sommes amenés à comprendre que l'appel dont nous sommes appelés est un appel céleste, que notre demeure, notre part, notre espérance, notre héritage sont là où Christ est assis à la droite de Dieu, nous ne nous attarderons pas à chercher une position dans le monde ou à nous amasser un trésor sur la terre. L'appel céleste n'est pas un vain dogme ou une théorie sans puissance. L'appel d'Abraham était-il une simple spéculation de l'esprit sur laquelle il pouvait raisonner et discuter tout en demeurant à Charan? Assurément pas. C'était une vérité divine, puissante, pratique. Abraham était appelé en Canaan et il était impossible que Dieu l'approuve de rester en arrière. Si nous désirons jouir de l'approbation et de la présence de Dieu, il faut que nous cherchions par la foi à agir conformément à l'appel céleste. Or, Dieu nous appelle à une pleine communion avec son Fils unique, que ce soit dans sa réjection ici-bas ou dans son acceptation dans le ciel. Pour Abraham, c'est la mort qui a rompu le lien qui le retenait à Charan. De même pour nous, c'est la mort qui rompt le lien qui nous enchaîne à ce présent siècle. Comment cela? Il faut que nous réalisions que nous sommes morts en Christ, notre chef et notre représentant, et que notre place dans le monde est une chose qui appartient au passé. La croix de Christ est pour nous ce que la mer Rouge était pour Israël. Elle nous sépare du monde. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons marcher, en quelque mesure, d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. Éphésiens 4, verset 1. Haute, sainte et céleste vocation, l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Philippiens 3, verset 14. La croix de Christ nous met à part du monde. Arrêtons-nous un moment ici pour contempler la croix de Christ sous ses deux faces essentielles. Premièrement, comme fondement de notre paix, de nos rapports avec Dieu et de notre culte, et deuxièmement, comme fondement de notre service, de notre témoignage et de nos rapports avec le monde. Si, convaincu de péché, je regarde la croix du Seigneur Jésus, je vois le fondement éternel de ma paix. Je vois que mon péché a été ôté quant à son principe et à sa racine, et je vois que mes péchés ont été portés. Je vois que Dieu est bien véritablement pour moi. La croix révèle Dieu comme l'ami du pécheur, elle le révèle comme celui qui, tout en étant juste, justifie le pécheur le plus impie. La création, sans doute, peut m'apprendre la puissance de Dieu, sa majesté et sa sagesse. Mais ces choses, considérées en elles-mêmes, sont toutes contre moi, parce que je suis un pécheur et qu'elles ne peuvent ni ôter mes péchés, ni faire que Dieu soit juste en me recevant à lui. À la croix, au contraire, je vois Dieu s'occuper du péché et régler toute question à son sujet. Je vois la manifestation glorieuse et la parfaite harmonie de tous les attributs divins. Je vois l'amour, et un amour qui captive mon cœur, en l'affermissant et en le détachant de tout autre objet. Je vois une sagesse qui fait l'admiration des anges. Je vois une puissance qui renverse tous les obstacles. Je vois une sainteté qui repousse absolument le péché, qui est l'expression la plus forte qui puisse jamais être donnée de l'horreur que Dieu a du péché. Je vois la grâce qui place le pécheur dans la présence même de Dieu, bien plus, dans le sein de Dieu. Quelle valeur n'a donc pas la croix à ce premier point de vue, comme fondement de la paix du croyant, de son culte et de sa relation éternelle avec le Dieu que cette croix révèle d'une manière aussi glorieuse. Quelle valeur n'a-t-elle pas pour Dieu, comme étant la base sur laquelle il peut avec justice déployer toutes ses perfections et agir à l'égard du pécheur selon toute l'étendue de sa grâce. Tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a fait, dès le commencement, prouve que la croix occupait la première place dans son cœur. Elle sera le grand centre d'attraction, comme l'expression la plus parfaite de son amour pendant toute l'éternité. Comme base de notre service actif et de notre témoignage, la croix réclame aussi notre plus sérieuse attention. Il est à peine nécessaire de dire que la croix est aussi parfaite à ce point de vue qu'au précédent. La croix qui me met en relation avec Dieu m'a séparé du monde. Un mort en a fini avec le monde. Le croyant, étant mort avec Christ, est crucifié au monde, et le monde lui est crucifié. Galates 6, verset 14. D'autre part, étant ressuscité avec Christ, le croyant est uni à lui dans la puissance d'une vie et d'une nature nouvelle. Inséparablement uni à Christ, il partage nécessairement son acceptation auprès de Dieu et sa réjection de la part du monde. Ces deux choses vont ensemble. La première nous constitue adorateurs et citoyens du ciel, la seconde nous constitue témoins et étrangers sur la terre. La première nous introduit au-dedans du voile, la seconde nous fait sortir hors du camp. Si la croix s'est placée entre moi et mes péchés, et m'a mis en paix avec Dieu, elle s'est placée aussi entre moi et le monde. Elle m'associe à Christ, le rejeté des hommes, elle fait de moi un objet de leur inimitié, tout en me constituant, en même temps, l'humble et patient témoin de cette grâce insondable et éternelle qui a été révélée en elle. Le croyant devrait bien comprendre ces deux aspects de la croix de Christ. Il ne devrait pas prétendre jouir des bénédictions de l'un tout en refusant l'autre. S'il saisit l'expiation qui a été accomplie sur la croix, il devrait aussi réaliser de fait la réjection dont elle est nécessairement accompagnée. L'apôtre Paul écrit « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. » Galates 6, verset 14. Il considérait le monde comme une chose qui devait être clouée à la croix, et le monde, en crucifiant Christ, avait crucifié tout ce qui lui appartenait. Méditons sérieusement ces choses. Le bon pays de Canaan. Revenons maintenant à notre sujet. Il n'est pas dit combien de temps Abraham s'arrêta à Charan. Cependant, Dieu, dans sa grâce, attendit que son serviteur soit libéré de toute entrave et obéisse pleinement à son commandement. Il ne pouvait pas y avoir d'accommodement entre le commandement divin et les exigences des liens familiaux. Dieu veut que ses serviteurs jouissent du bonheur complet qui accompagne une entière obéissance. Il est bon de remarquer qu'Abraham ne reçut aucune nouvelle révélation pendant son séjour à Charan. Pour que Dieu nous donne de nouvelles lumières, il faut que notre conduite soit à la hauteur de la lumière qu'il nous a déjà communiquée. À quiconque a, il sera donné. Luc 19, verset 26. Tel est le principe divin. Souvenons-nous, toutefois, que Dieu ne nous traînera jamais à la remorque dans le sentier de l'obéissance et du vrai service. Dieu ne nous traîne pas, il nous attire et nous fait marcher ainsi dans le chemin qui conduit au bonheur ineffable qui est en lui-même. Si nous ne comprenons pas qu'il est de notre intérêt de renverser même les barrières de la nature pour répondre à l'appel de Dieu, nous manquons à la grâce qui nous a été faite. Hélas, nous commençons souvent par compter les sacrifices, les empêchements et les difficultés, au lieu de courir dans le chemin de l'obéissance plein d'ardeur, parce que nous connaissons et aimons celui dont l'appel a retenti à nos oreilles. Chaque pas dans le chemin de l'obéissance est accompagné de bénédictions réelles, parce que l'obéissance est le fruit de la foi, et que la foi nous introduit dans une communion vivante avec Dieu. Il n'est pas question de placer l'homme chargé de tout le poids de ses péchés sur le sentier du service pour Dieu. La vraie obéissance ne peut être que la manifestation ou le fruit d'une nouvelle nature communiquée à celui qui a cru. Dieu, dans sa bonté, donne à cette nouvelle nature des préceptes pour la guider. Mais essayer de guider la nature déchue de l'homme par la pure et sainte loi de Dieu est totalement inutile. Mais Dieu ne communique pas seulement aux croyants une nature divine et ne le guide pas seulement par ses préceptes divins. Il place encore devant lui des espérances conformes à cette nature. C'est ainsi que le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham et il lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. » Actes 7, versets 2 et 3. Dieu voulait placer devant lui un objet désirable. Il n'y avait pas là de la contrainte, mais Dieu attirait son âme. Selon l'appréciation de la foi, le pays de l'Éternel était bien meilleur que le pays d'Ur ou que tout autre. Sans l'avoir vu, Abraham en appréciait la beauté et la valeur, et il estimait que, pour le posséder, il valait la peine d'abandonner les choses présentes. C'est pourquoi nous lisons que, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. Hébreux 11, verset 8. La foi devint le grand mobile de son âme. Ainsi que le dit l'apôtre Paul, « Nous marchons par la foi, non par la vue. » 2 Corinthiens 5, verset 7. La foi repose sur un fondement bien plus solide que l'évidence de nos sens, et ce fondement est la parole de Dieu. Nos sens peuvent nous tromper. La parole de Dieu? Jamais. L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux nous révèle Dieu lui-même, descendant en grâce jusque vers nous, ôtant nos péchés de la manière la plus absolue, par le sacrifice de la croix, sur le fondement de sa justice éternelle. Non seulement Dieu ôte nos péchés, mais il nous communique une vie nouvelle, une vie de résurrection, qui est la vie même de son propre Fils, ressuscité et glorifié. C'est la vie que tout vrai croyant possède en vertu des conseils éternels de Dieu, par le fait qu'il est uni à celui qui a été cloué à la croix et qui est maintenant sur le trône de la majesté dans les cieux. Cette nouvelle nature, comme nous l'avons déjà fait remarquer, Dieu la guide par les préceptes de sa parole appliqués par le Saint-Esprit. Il l'encourage aussi en lui présentant des espérances indestructibles. Il lui révèle à distance l'espérance de la gloire, la cité qui a des fondements, une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste, les plusieurs demeures de la maison du Père, un royaume inébranlable, une éternelle union avec lui-même dans ces régions du bonheur, de la lumière et de l'amour, où la douleur et l'obscurité ne sauraient entrer. Dieu, dans sa grâce infinie, et en vertu du sacrifice que Christ a accompli, me communique une nature capable de jouir du ciel et de lui-même, une nature capable d'en jouir dès maintenant. Telle est la voie infiniment excellente de Dieu. C'est ainsi qu'il a fait avec Abraham, avec Saul de Tarse, et c'est ainsi qu'il agit à notre égard. Le Dieu de gloire montra à Abraham un meilleur pays que celui d'Ur et de Charan. Il fit voir à Saul de Tarse une gloire si resplendissante que ses yeux furent fermés à toutes les splendeurs de la terre, et qu'il ne les estima dès lors que comme des ordures, pourvu qu'il puisse gagner le Christ qui lui était apparu, et dont la voix avait retenti jusqu'au plus profond de son âme. Saul voyait un Christ céleste dans la gloire, et pendant tout le reste de sa course ici-bas, malgré sa faiblesse, c'était ce Christ céleste et cette gloire céleste qui remplissaient toute son âme. La tente et l'autel. Et Abram passa au travers du pays, jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Et le Cananéen était alors dans le pays. Versets 6 et 7. La présence des Cananéens dans le pays de l'Éternel devait nécessairement être une épreuve pour Abraham, un appel à sa foi et à son espérance, un exercice de cœur, une épreuve de patience. Il avait laissé derrière lui Ur et Charan pour se rendre au pays dont le Dieu de gloire lui avait parlé. Et là, il trouve les Cananéens. Mais là aussi, il trouve l'Éternel. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta semence ». Verset 7. La liaison de ces deux déclarations est d'une grande beauté. Le Cananéen était alors dans le pays, et de peur que les regards d'Abraham ne s'arrêtent sur ce peuple, possesseur du pays, l'Éternel lui apparaît comme étant celui qui lui donne ce pays-là, à lui et à sa postérité pour toujours. Les pensées d'Abraham sont ainsi tournées vers l'Éternel et non vers les Cananéens. Il y a là une instruction pour nous. Le Cananéen dans le pays est l'image de la puissance de Satan qui voudrait nous tenir loin de notre héritage. Au lieu de nous occuper de lui, nous sommes appelés à saisir la puissance de Christ qui nous y introduit. Christ est victorieux, et par lui nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, au lieu de nous livrer à un esprit de crainte, entretenons un esprit d'adoration. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et tendit sa tente. Versets 7 et 8. L'autel et la tente nous révèlent les deux traits principaux du caractère d'Abraham. Il a été adorateur de Dieu et étranger dans le monde. Dans celui-ci, il n'a eu aucune possession, pas même où poser son pied, acte 7, verset 5, mais il possédait Dieu, et cela lui suffisait. La famine, séjour en Égypte. Mais si Dieu répond à la foi, il l'éprouve aussi. Il ne faut pas s'imaginer que le croyant n'ait à parcourir qu'une voie facile et unie. Au contraire, il rencontre des mers houleuses et des ciels orageux. Mais Dieu veut que nous fassions ainsi une plus profonde expérience de ce qu'il est pour celui qui se confie en lui. Si le ciel était toujours serein, le sentier toujours uni, nous ne connaîtrions pas aussi bien le Dieu auquel nous avons affaire. Nous sommes enclins à prendre la paix extérieure pour la paix de Dieu. Quand tout va bien autour de nous, que nos affaires prospèrent, que nos enfants se conduisent bien, que notre habitation est agréable, que nous jouissons d'une bonne santé, nous sommes disposés à confondre la paix qui repose sur un tel état de choses avec celle qui découle de la présence de Dieu. C'est pourquoi, quand nous nous reposons sur les circonstances au lieu de nous reposer sur lui, il nous visite et, d'une manière ou d'une autre, il ébranle nos faux appuis. Nous sommes souvent portés à croire qu'une voie droite doit être à l'abri des épreuves et réciproquement que telle voie est droite parce qu'elle est exempte d'épreuves. C'est une grande erreur. Le sentier de l'obéissance est souvent tout ce qu'il y a de plus éprouvant pour l'homme. Ainsi, quelque temps après son arrivée dans le lieu où Dieu lui avait dit d'aller, il y eut une famine dans le pays. Verset 10. Abraham devait-il en conclure qu'il n'était pas à sa place? Non, certainement. Lorsque Paul fut appelé en Macédoine, la prison de Philippe fut presque la première chose qu'il rencontra. Un cœur qui n'aurait pas été en communion avec Dieu aurait vu, dans cette épreuve, un désaveu de sa mission. Mais Paul ne la mit pas en question, et il fut rendu capable de chanter les louanges de Dieu au sein même de la prison. Il ne doutait pas que toutes les choses qui lui arrivaient étaient telles qu'elles devaient être. Et il avait raison, car dans la prison de Philippe, il y avait un geôlier auquel Dieu voulait faire parvenir l'Évangile par son moyen. Le diable lui-même est l'instrument dont Dieu se sert pour réaliser ses desseins. Abraham aurait dû penser à l'égard de la famine, comme Paul à l'égard de sa prison. Il se trouvait dans la position même où Dieu l'avait placé, et il n'avait reçu aucun ordre d'en sortir. La famine était là, il est vrai, et l'Égypte était à sa portée, paraissant lui offrir la délivrance. Mais le chemin que devait suivre le serviteur de Dieu était clair. Il vaut mieux souffrir dans la voie de Dieu que d'être à l'aise dans celle de Satan. Mieux vaut être pauvre avec Christ que riche sans lui. Abraham en Égypte eut du menu bétail et du gros bétail et des ânes et des serviteurs et des servantes et des ânesses et des chameaux. Preuve évidente, dira le cœur naturel, qu'Abraham fit bien de descendre en Égypte. Mais il n'eut là ni autel ni communion avec Dieu. Le pays du Pharaon n'était pas le lieu de la présence de l'Éternel, et Abraham, en y descendant, perdit plus qu'il ne gagna. Il en est toujours ainsi. Rien ne saurait jamais remplacer la communion avec Dieu. La délivrance d'une calamité temporaire et l'acquisition des plus grands biens sont très peu de choses en comparaison de ce que l'on perd en s'éloignant du droit sentier de l'obéissance. Hélas, combien nombreux sont ceux qui, pour échapper aux épreuves nécessairement liées au chemin de Dieu, se sont détournés pour suivre le courant du présent siècle mauvais et sont ainsi tombés dans un état de stérilité, de tristesse et de ténèbres spirituelles. Il est possible qu'ils aient fait fortune, qu'ils aient gagné la faveur du monde, qu'ils aient bien été traités par ces pharaons, mais toutes ces choses peuvent-elles compenser la vraie joie en Dieu, la communion avec lui, un cœur à l'aise, une conscience pure et sans reproche, un témoignage vivant et un service efficace? Le chemin de l'obéissance, simple et complète, est étroit, mais toujours sûr. Il est quelquefois rude, mais toujours heureux et béni. Veillons à garder la foi et une bonne conscience que rien ne saurait remplacer. Si l'épreuve survient, attendons-nous à Dieu. Alors, au lieu d'être pour nous une occasion de chute, elle sera une occasion de montrer notre obéissance. Souvenons-nous que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, verset 4. Tel a été son amour pour nous, et tel son jugement du caractère de ce présent siècle, qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous en délivrer. Ne le renions pas en allant nous replonger de nouveau dans ce monde dont il nous a délivrés par sa croix.